RMJ.
RMJ. Écoutez-nous sur Radio Motif Jeune
le 29 février
à partir de 10h. RMJ.
En direct de la mission locale d'Argentan et de Vimoutier.
Retrouvez-nous sur 90.1 FM
ou sur zoomdrude.org.
Vous venez d'écouter Andy Mudow de Mac Millet sur Radio Motif Jeune. Nous sommes toujours en direct de la mission locale d'Argentan. Pour finir cette journée de direct, nous vous proposons une discussion au sujet du harcèlement en compagnie de la Maison des Ados d'Argentan. On est en compagnie de Sandra et Catherine. Bonjour.
Bonjour Quentin.
Tout d'abord, nous allons commencer par Lixandre et Or qui vont nous raconter leur vécu et tout ce qu'ils ont pu endurer. Nous vous écoutons.
Merci Michel, merci à toute l'équipe de me recevoir aujourd'hui. Moi j'ai vécu du harcèlement moral principalement, mais aussi physique. Je suis sous curatelle renforcée, épileptique dyspraxique, et mon harcèlement a commencé en seconde. Donc mes camarades de classe avaient vu que j'avais un trouble de la concentration, et du coup c'est à ce moment-là que ça a commencé. J'ai essayé d'en parler, de demander de l'aide, mais aucune aide ne m'a été donnée. J'ai pas eu non plus vraiment de soutien de la part de mes parents. J'étais devenue incontrôlable mentalement, donc ce qui m'a permis d'aller presque tous les soirs à l'hôpital et quelques fois en psychiatrie, dans le service psychiatrie. Je perdais la mémoire à force, mon cerveau il pouvait plus tout contenir en information. Du coup, je perdais la mémoire et je le disais à personne parce que je pense qu'on m'aurait encore plus embêté à cause de ça. Voilà.
Et du coup, nous allons aussi écouter l'histoire de Lixandre.
Merci Michel. Alors moi, c'était de l'harcèlement moral au collège et au lycée, plus au collège. C'était des insultes, des critiques, des jugements, parce que les gens, quand on est différent, ils aiment pas trop. Donc ils se permettent de juger, d'insulter, de critiquer, comme je l'ai dit. Prof comme élève, bien évidemment. C'est les deux. Un peu compliqué sur le moment. Enfin, j'y pensais pas trop, mais c'est en grandissant où là, moralement, ça commençait à un peu à partir en cacahuète, on peut dire ça, avec le manque de confiance en soi, le stress, etc. Et aussi l'harcèlement des réseaux sociaux. Donc j'ai pu contacter le 3018, qui est un numéro d'urgence, d'harcèlement. On peut les appeler ou aller directement sur l'application 3018, et on peut leur envoyer des preuves si on en a. Et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont très bien aidé.
Je vais juste un petit peu revenir sur un petit coup. Comme on dit, les profs, etc., on n'a aucune aide, ceux qui ont des difficultés et tout. Donc je me demande où est passé les principes moraux de l'éducation nationale, car chaque directeur et sous-directeur d'établissement, que ce soit fac, lycée, collège, primaire, représente l'éducation nationale. Donc est-ce qu'elle est encore active et que j'ai envie de dire qualifiée?
Je vois. C'est intéressant et on va revenir sur ça bien après. Mais avant, nous avons une question pour les représentants de la maison des ados, à savoir quelle est la définition propre du harcèlement?
Il y en a beaucoup.
Il y a plein de choses, c'est tellement complexe. Ce qu'on peut dire, c'est que parfois ça ne se voit pas. Il y a du harcèlement qui est très visible, et celui-là, on peut plus facilement le repérer et le prendre en compte si on en a les moyens. Et il y a du harcèlement qui est beaucoup plus invisible, en fait. Et dans tous les cas, ça passe par des brimades, des insultes, de la violence physique, morale, psychologique.
Des techniques d'intimidation,
ouais.
Rendre une situation hostile, un environnement ouais. hostile.
De la mise à l'écart aussi. On ouais. peut être tenu à l'écart systématiquement. On arrive dans une pièce et il y a un silence qui se fait et plus personne ne nous adresse la parole. Alors on n'est pas violenté, on n'est pas insulté, mais on est complètement ostracisé, on est complètement laissé de côté. Ça aussi, c'est du harcèlement.
En gros, ça intrigue la personne.
Bah, ça la met mal à l'aise.
Ça la met très mal. Ça la met très mal. Et ce qui est caractéristique du harcèlement, c'est que ça dure dans le temps.
Dans le temps.
Ça dure dans le temps et ça vient vraiment produire quelque chose dans la tête de la victime qui a été très bien décrit par, par Aurore en fait. Toi tu l'as décrit aussi Alexandre, mais et en fait ça retourne complètement le cerveau, on doute de soi, on perd totalement confiance en soi et on peut véritablement sombrer en fait.
Oui, et du coup ça rend difficile la demande d'aide en fait, parce qu'on doute de soi, on perd son estime et ça rend compliqué d'aller vers l'adulte et de demander de l'aide. Et quand bien même on le fait, parfois on n'a pas la réponse adaptée, ce qui renforce encore le sentiment d'isolement et de mal-être.
Je vois. Et vous aviez parlé du sujet, à savoir qu'il y a l'harcèlement visible et l'harcèlement invisible. Du coup, quels sont les types d'harcèlement ?
Bah, y a le harcèlement moral, hein, comme il a été cité tout à l'heure. Il y a le harcèlement physique. Des fois, il y a les deux. Parfois, c'est le harcèlement dont on parlait, celui qui est plus insidieux, moins perceptible par les autres, en fait, seulement par la victime.
Après, il y a différents lieux aussi, et il ne faut pas s'y tromper. On parle beaucoup de l'école, du lycée, du collège, mais potentiellement, il y a plein de lieux pour être victime de harcèlement.
C'est sur les réseaux sociaux.
Ouais. Alors, il y a les réseaux sociaux, et ça, c'est un grand problème, mais il y a aussi le travail. On peut être harcelé au travail, on peut être harcelé dans un loisir, dans un club, on peut être harcelé en famille, aussi, c'est pas anodin non plus, faut se le dire. Enfin, il y a des choses qui peuvent, des violences qui peuvent se répéter, des violences morales, et ça produit en tout cas les mêmes effets que du harcèlement qu'on vivrait à l'école ou qu'on vivrait au travail ou dans un club de sport ou voilà.
Même en fait, même à la maison, on peut, avec peut-être des parents qui sont travailleurs et exigent beaucoup venant de l'enfant. C'est aussi une forme d'harcèlement.
Oui, ou coller une étiquette sur quelqu'un, lui répéter qu'il est comme ceci ou comme cela, ou trop ou pas assez. Ou...
Je repense au témoignage de Dylan tout à l'heure autour de l'homosexualité, de l'homophobie. Enfin, c'est vraiment cette question de la différence. Et on est tous différents, justement. On est tous semblables, mais tous différents. Et ce qui est particulier chez les enfants et les adolescents, c'est que pour faire groupe, en fait, il faut avoir un but et que malheureusement, parfois, le but, ça va être de désigner une victime. Alors, on ne le nomme pas comme ça et ils ne le perçoivent pas comme ça, mais en tout cas, d'avoir un bouc émissaire, quelqu'un vers qui on va déverser tout ce qu'il y a de plus sombre ou de plus violent, et c'est cette personne-là qui va être la cible de tout ce qu'il y a de plus sombre, négatif dans l'humain. Et alors ça peut être une couleur de cheveux, une couleur de peau, une morphologie, mais tout est prétexte en fait, tout est prétexte pour être, pour devenir une cible. Voilà.
Et la posture des adultes est importante parce que parfois les adultes, malgré eux, impulse des choses en fait, encourage malgré eux
renforce
parfois la cible en fait, la victime, elle est déjà nommée par des réflexions, par
des surnoms
mm-hmm. ou
des étiquettes.
Ouais, des étiquettes.
Ouais. Super. Toi t'es la tête de linotte, ou t'es celui qui écoute pas, ou t'es celui qui gigote, ou ça c'est tout petit, hein. C'est dès la maternelle.
Merci pour vos détails. Nous allons revenir sur Aurore. Aurore, tu nous as parlé de curatelle renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Alors, la curatelle renforcée, je pense que vous connaissez tous ce que c'est une tutelle déjà, je pense. Eh bien, en fait, une curatelle renforcée, c'est un cran en dessous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un cran en dessous ? C'est qu'on nous laisse le choix de décider ce que nous voulons faire, mais nous en discutons avec notre référent qui est ma curatelle, et du coup, elle m'aide à réaliser mes projets, elle gère mes finances. Voilà.
Je vois. Justement, et Roy et Alexandre, est-ce que ça a eu un impact sur votre scolarité, sur vos compétences?
Du coup, en seconde, je n'étais pas sous curatelle. Il n'y a qu'à partir de la première que j'y ai été mis. L'établissement le savait très bien. Déjà qu'une persécution ou un harcèlement, ça vaut très lourd, je pense, au niveau de la loi, pour ceux qui le font, qui, les railleries, etc. Mais quelqu'un qui est sous curatelle ou sous tutelle, les conséquences peuvent être plus que la normale.
Non,
je pense.
Moi personnellement, non, pas du tout. J'ai continué, j'ai pas lâché jusqu'à l'université. Donc c'est plus mental, on va dire. C'est quand tu rentres à la maison et tu repenses à tout ça, donc ça fait quand même un poids lourd. Mais sinon, niveau scolarité, non, pas du tout.
D'accord. Et du coup, quand on vous voit sur ce plateau, vous avez pu surmonter les difficultés. Comment avez-vous fait pour y parvenir?
Alors, ça s'est pas fait sans difficulté. J'ai eu la chance d'avoir rencontré des amis, malgré plus jeunes que moi en terminale, d'avoir un soutien moral de la part de la MDA de Flair en premier, de la proximité où j'habitais. Et du coup, j'en ai reparlé à la MDA d'Argentan qui m'a encouragée à faire cette démarche, du coup, de porter plainte.
Et
moi, j'ai pas demandé d'aide. Enfin, je me suis débrouillé tout seul, on va dire. J'ai essayé de travailler mon mental, même si c'était assez compliqué. Même aujourd'hui, c'est toujours assez compliqué avec le stress. Donc, voilà quoi.
Là, je vois très bien que Aurore et Lixand y parlent sur tout ce qui est harcèlement et tout. Moi, j'ai vécu au nom du collège que les profs ils me traitaient de n'importe quoi, du bourrin, feignant, tu vas jamais réussir ta vie, t'es nul à chier, tu fous rien en cours et tout. Que...
Tu finiras sous les ponts.
Ouais, c'est ça, ça finit comme. Ils m'ont dit plein de choses, j'ai dit à mes parents, c'est parti loin, mes parents ils sont partis voir les profs. Et les profs, ils ont dit oui, parce qu'ils ne voulaient pas adapter, parce que j'ai des difficultés en plus. Ils ne voulaient pas mettre en place tous les aménagements que j'ai à faire. Et on a appelé l'ordonnance de Caen, un haut gradé déjà. Et là, c'est venu, ils ont dit c'est soit vous mettez en place, soit je débarque au collège. Ou à l'école primaire, et ça va mal finir. Et ça a fini par faire ça. Et quand je suis arrivé au lycée, ça a fait pareil. Le prof, derrière le dos de mes parents, c'était bon, hein, feignant, vous êtes. Il nous a insulté tous les noms, nous traiter de bon, enculé, je vais vous défoncer, des trucs comme ça. Je dis, moi, je réponds pas, parce que ça sert à rien. Parce que si on répond, c'est qui va gagner, c'est le prof, nous, on va rien gagner. Et quand on a eu la réunion parents-prof, le prof, tout sympa, il disait rien, il dit non, j'ai pas dit ça et tout. Et puis le relendemain, après la réunion parents-prof, il m'en a remis plein la gueule et tout. Et puis j'ai dit à un moment, il faut dire la vérité, vous dites pas la vérité devant mes parents, dites-leur et puis c'est tout. Et après ça a recommencé, mes parents par contre laissent partir voir, on a vu les directeurs et tout. Et puis. Maintenant, le prof, c'est soit il dit plus des mots comme ça, soit il se fait virer et puis il va bien en chier et puis voilà. Et maintenant, j'arrive dans ma vie puis j'ai pas attendu après les profs.
Merci. Et est-ce que vous avez en parlé à votre entourage, par exemple, des amis ou à vos parents?
Moi, oui, mais à chaque fois, on me disait que c'était moi le problème. Il y en a à l'école, au lycée, qui me disaient que je devais aller à l'asile. Il y en a, certes, Il y a toute l'administration, enfin, la vie scolaire qui était d'accord avec eux. Donc, c'était pas très bon non plus.
Alors, par rapport aux élèves, non, je n'ai jamais parlé. J'ai toujours été dans ma bulle, on va dire. Je faisais face à ça. Et par rapport à une professeure, ouais, j'en ai déjà parlé au directeur, mais ils s'en foutaient aussi.
Donc, vous étiez plutôt isolé.
C'est ça, voilà.
Oui, exactement.
Et pour les représentants de la maison des ados, que pouvez-vous dire de ce sujet? Donc, que pouvons-nous faire pour dénoncer ce genre d'actes?
Alors, ce dont je suis convaincue, c'est que dans chaque établissement, il y a de bonnes personnes qui sont susceptibles d'écouter, de regarder, de porter un regard bienveillant et d'aider les jeunes, les élèves qui vivent du harcèlement. Sauf que, bah, il faut les trouver. Voilà, on sait bien comment fonctionne la vie quotidienne, mais la vie aussi dans les établissements scolaires. Hein. C'est une ruche, il se passe plein de choses et les élèves n'ont pas... Enfin, en tout cas, ceux qui sont en difficulté n'ont pas toute l'attention qu'ils mériteraient. J'écoute, j'entends ce que dit Aurore sur le fait de ne pas être cru, et ça, c'est terrible. En tout cas, le conseil, la question que tu poses, Michel, c'est vraiment ne pas rester seul. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, oui. Catherine.
Ne pas rester seule. Et puis, j'invite aussi tout le monde, en fait, jeunes et adultes, à se sentir responsables.
Et concernés.
Et concernés par la cause du harcèlement. Et c'est vrai que, bah voilà, si des élèves sont témoins ou pensent qu'il y a des choses qui sont dites et que c'est pas cool, ou en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est victime, même s'il en est pas sûr, et ben voilà, trouver une personne ressource ou en parler à ses parents, parce que le harcèlement, s'il est pas nommé, s'il est pas questionné, s'il est pas su, rien ne peut être fait, en fait. On peut pas apporter d'aide. Donc, faut vraiment en parler. Mais aussi, ça peut venir de la part des élèves aussi, des autres élèves, des témoins, en fait. Les encourager à questionner, à parler.
D'accord, je vois. Et quelles sont les différentes structures qui peuvent accueillir ces gens victimes d'harcèlement?
À la maison des ados.
Bah, oui, la maison des adolescents pour les adolescents, enfin pour les jeunes à partir du collège, en fait, jusqu'au... Bah, même dans les études supérieures, parce que le harcèlement ne s'arrête pas aux portes du lycée. Mmh. Et bien souvent, on se rend compte que même dans le travail, je le disais tout à l'heure, mais même dans la vie professionnelle, parfois, il y a des situations de harcèlement. Pour les plus jeunes, il y a les centres médicaux psychologiques pour enfants et adolescents. Alors ça, c'est du côté vraiment de la santé mentale, mais le harcèlement, il attaque la santé mentale, donc c'est vraiment des lieux ressources. Malgré tout, je continue de me dire que le bureau de l'infirmière dans les collèges et les lycées, ça peut être un lieu ressource aussi.
Je vois. Et Alexandre, est-ce que vous avez vu des professionnels de la santé, dont des psychologues ou des médecins?
Je peux pas vraiment dire professionnel. Il y avait juste un psychologue de lycée, hein, c'est tout. C'est tout. Il y avait une infirmière aussi. Ils étaient pas totalement là vraiment, donc on pouvait pas vraiment y aller comme on voulait pour en parler. Moi, à cette époque-là aussi, je faisais beaucoup de crises d'épilepsie, donc ce qui est aussi accentué mes troubles de mémoire. Par exemple, si j'en fais une crise d'épilepsie, notre corps déjà il est mis à rude épreuve, et aussi on peut passer l'arme à gauche dans une crise. Hein. C'est d'autant plus choquant pour ceux qui en voient pour la première fois. Et
alors moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé à personne, donc non je. Je l'ai gardé pour moi, j'étais dans ma bulle et au début je m'en foutais, mais c'est en grandissant où là je me rends compte que c'est à cause de tout ça, quoi, le stress, la confiance en soi.
Qu'est-ce que le harcèlement a changé en vous?
Ça m'a renforcé, on va dire. J'ai pu, comment dire, renforcer mon mental, même si aujourd'hui c'est toujours aussi dur. Okay. Mais je travaille tous les jours par rapport à ça, et puis il y a des passe-temps qui m'ont aidé, des passions comme le catch, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir travailler tout ça physiquement, mentalement, et surtout la musique aussi. Hein.
Moi, ça m'a rendue colérique, haineuse, mais tout aussi peureuse. Parce que maintenant, même si je suis dans un grand groupe, quand je suis dans des grands groupes, j'ai peur du rejet. Donc voilà, mais je suis heureuse d'avoir trouvé une bonne équipe de radio qui m'a acceptée comme je suis.
Et qu'est-ce qui vous a aidé à aller mieux, Alexandre?
Alors moi, comme je l'ai dit, c'est la passion. La passion, ça a beaucoup aidé.
Le catch.
C'est ça, exactement. Alors les gens, pas du tout. Enfin, j'ai pas eu... enfin, après, j'ai pas parlé, donc j'ai pas... Mais ça se voyait, quoi. Enfin, ça se voyait que je me fais harceler, mais personne ne disait rien. Enfin... Mais sinon, ouais, ça m'a... Le catch, ça m'a bien aidé. Hein.
Moi, ce qui m'a bien aidé, c'était un cadeau de Noël de mes parents, donc un punching ball. Mais bon, ça n'a pas fait grand-chose. Quand j'en ai besoin à l'école, c'est les autres quoi, qui prennent quand je me défends.
Et quelle a été votre motivation de venir nous en parler aujourd'hui sur le plateau?
Alors, ma motivation, c'est d'alerter, de sensibiliser le public qui nous écoute et aussi... de protéger les gens comme moi qui ont un handicap plus ou moins grave.
Bah, en vrai, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aurore. C'est vraiment pour sensibiliser les gens et des deux côtés, des gens qui se font harceler et de ceux qui harcèlent, qu'il faut arrêter. Enfin, ça sert à rien, c'est inutile, clairement.
Exactement.
Pour la Maison des Ados, on parle souvent du harcèlement entre jeunesse, dans la jeunesse, mais aussi, il y a aussi le harcèlement au travail. Comment réagir face à cette situation?
C'est un peu le même principe, hein, finalement, que quand on est élève dans un établissement. Hein, c'est les mêmes processus qui se passent,
les mêmes
répercussions et les mêmes impacts sur l'état d'être. Hein. On peut être adulte, on peut avoir jamais subi de harcèlement dans sa vie d'enfant, et puis finalement être confronté à ça dans le monde professionnel. Et ça peut être très difficile.
C'est difficile aussi de trouver une écoute, de trouver une personne à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Dans tous les cas, c'est un peu ce qui se rejoint, c'est la question du sentiment d'isolement, la solitude, honte aussi parfois, parce que quand on est plus jeune, on est peut-être. Alors il y a la honte aussi d'être harcelé. Je ne sais pas si vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute, qu'est-ce qui vient d'où, ça vient de moi forcément.
C'est exactement ça.
Et c'est ça le plus terrible en fait, c'est la double peine, c'est qu'on est à la fois victime des autres et qu'on se rejette la faute sur soi-même. Et chez les adultes. Enfin, chez les adultes, dans le monde professionnel, le processus, il est exactement le même. Trouver quelqu'un qui puisse écouter ça. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est la loi en fait qu'il faut ramener là-dedans, parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, il y a un gros bouquin épais comme ça qui s'appelle le Code pénal, et la question du harcèlement, elle est rentrée dedans. Elle est dedans en tant que le mot harcèlement. Alors, il faut pouvoir comme disent les spécialistes, caractériser en fait, c'est-à-dire apporter la preuve de, mais en tout cas porter plainte, se plaindre, à défaut de porter plainte à la police ou à la gendarmerie, mais aller, ne pas rester seul en fait, vraiment trouver quelqu'un qui va pouvoir écouter notre parole et nous éclairer, nous guider aussi quand on vit, même en tant qu'adulte, quand on vit quelque chose comme ça.
D'accord. Et durant cette interview, nous avons vu que ce sujet vous tenait à cœur. Bon, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, vous avez été victime d'harcèlement?
Alors, moi, ça a été plutôt dans ma vie d'adulte, au niveau professionnel, oui.
Au niveau professionnel.
Ouais.
Alors moi, ça a été à la fois dans ma vie d'enfant, d'ado, et un petit peu aussi dans ma vie professionnelle, mais pas par des jeunes, par des adultes. en fait. Parce que les adultes, ce que vous disiez hein, tout à l'heure, hein, vous l'avez tous dit, hein, on veut que les jeunes, on veut sensibiliser les jeunes à l'empathie, à être bienveillants les uns avec les autres. Sauf que quand les adultes ne montrent pas l'exemple, mm-hmm. Bah, comment on veut que les enfants comprennent ce qu'il faut faire, en fait. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai plus été malmenée par des adultes que par des jeunes de mon âge, par des enfants. Voilà.
Et ça a été une motivation pour vous de travailler à la maison des ados vis-à-vis de ces situations?
Oh bah, de toute façon, oui,
ça en fait partie,
ouais, ça en fait partie. Enfin, en tout cas, ça nous tient à cœur toute la question des violences en général et le harcèlement. C'est une violence qui est présente partout. Ça nous anime et on a envie d'apporter du soutien.
Merci à tous. Pour tous ceux qui sont victimes d'harcèlement, vous pouvez contacter la Maison des Ados au 02 33 67 92 73.
RMJ. RMJ. Écoutez-nous sur Radio Motif Jeune.
Le 29 février.
À partir de 10h.
RMJ.
En direct de la mission locale d'Argentan et de Vimoutier.
Retrouvez-nous sur 90.1 FM
ou sur zoomdonde.org.